RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Alors en 2022, la période révolutionnaire, notre grande révolution française, eh bien elle demeure toujours présente dans nos mémoires, comme dans nos débats politiques. Elle sert de référence pour apprécier ce que nous vivons et elle représente encore un enjeu dans nos discussions. Selon que nous apprécions ou condamnons Robespierre ou Marie-Antoinette ou Louis XVI, selon que nous évoquons la réalité ou au contraire l'invention du génocide vendéen, eh bien la Révolution garde une véritable actualité politique. Non seulement elle ne semble pas terminée, mais le passé vit toujours dans le présent et on peut toujours s'interroger sur la place de la violence dans l'accouchement de notre République, les traces de la Révolution dans notre vie politique aujourd'hui. Avec nos deux invités, historiens de la Révolution, nous allons donc faire le point sur cette mémoire, si partagée dans tous les sens du terme, et sur cette actualité. Jean-Clément Martin, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis Poitiers. Alors je rappelle que vous êtes professeur émérite de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez dirigé l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Vous avez publié récemment une biographie de Robespierre pour laquelle nous vous avions reçu dans ce studio. Et vous publiez aujourd'hui deux ouvrages passionnants. D'une part, une infographie de la Révolution française, c'est aux éditions Passé Composé. C'est un grand format, très original, très innovateur et très séduisant parce que il nous donne à voir et à comprendre des lieux, des moments et des tendances et des fractures de la Révolution française. Et puis surtout, il y a peu de temps, vous avez publié « La Révolution n'est pas terminée ». C'est aux éditions Passé Composé. C'est un recueil de vos interventions depuis 20 ans et c'est tout à fait passionnant. Avec nous également, Loris Chavanette. Bonjour.
Bonjour Frédéric Mounier.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire, vous êtes spécialiste de la Révolution et du Premier Empire. Votre dernier livre passionnant s'intitule « Danton et Robespierre, le choc de la Révolution ». C'est également aux éditions Passé Composé. Autour de ce livre, nous avons donc récemment conversé dans les racines du présent. Et je ne voudrais pas oublier aussi votre ouvrage publié aux éditions du CNRS précédemment qui s'intitulait « 95, la terreur en procès ». Cette terreur dont nous parlerons dans quelques instants. Voilà, avec vous deux, au fil de cette heure de conversation, nous allons donc tenter de répondre à cette question. La Révolution est-elle terminée ?
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Les racines du présent aujourd'hui autour du thème « La Révolution est-elle terminée ?» Alors Jean-Clément Martin, vous répondez à cette question puisque le titre de votre dernier livre c'est « La Révolution n'est pas terminée ». C'est aux éditions Passé Composé. Et nous sommes également en présence de Loris Chavanette dont le dernier livre était une biographie croisée passionnante de Danton et Robespierre. Le choc de la Révolution également chez Passé Composé. Donc notre question aujourd'hui « La Révolution est-elle terminée ?» Alors Jean-Clément Martin, vous évoquez cette histoire de la Révolution, vous en parlez comme d'un abcès mal cicatrisé, un moignon douloureux quand le temps change. Que voulez-vous dire par là, Jean-Clément Martin ?
La formule est un peu brutale, c'est de la médecine.
Dans oui, mais au moins on comprend ce que vous voulez dire.
Je ne sais pas, voilà. J'espère. Je veux dire en fait effectivement deux choses. La première chose qui me semble la plus simple à comprendre, c'est que nous n'en avons jamais fait le deuil. Nous vivons toujours sur des souvenirs douloureux, sur des souvenirs antagonistes et sur des habitudes de pensée. Mmh. C'est encore pire que ces souvenirs qui sont des habitudes presque inconscientes en définitive.
Ce sont des habitudes de pensée que nous avons héritées probablement de nos périodes scolaires.
Oui, d'habitude collective. Oui. J'accuserai pas seulement l'école. Hein. Enfin, je n'accuserai personne.
Oui, on n'accuse personne, mais bon, voilà.
Non, on n'accuse personne. Hein. Oui. Nous vivons dans des attitudes, des habitudes qui font que nous butons toujours sur des mots qui évoquent des choses extrêmement dures à comprendre, mm-hmm. et que nous n'arrivons pas, à mon avis, à comprendre complètement. Si vous me permettez, je prendrai un seul exemple.
Allez-y.
Parce que en fait, ça a été le déclic pour le livre, et vraiment le déclic, hein. C'est la mort de Samuel Paty, c'est vraiment ça qui a déclenché chez moi la nécessité de revenir sur...
Oui, de quelle façon, Jean-Clément Martin ?
Ben, écoutez, moi, ce qui m'a vraiment effrayé, bon, c'est de voir qu'il y a eu cette communion que je trouvais normale.
Hein, oui, nous avons tous communié à ce moment-là dans la douleur,
oui,
partagée.
Bien sûr, oui. Parce que la décapitation d'un professeur pour des raisons absolument horribles et stupides, enfin, mm-hmm. c'est invraisemblable. Bon. Donc il y a eu ce moment de sidération devant la décapitation, cet effroi absolu et malheureusement normal, mm-hmm. légitime. Bon. Et bon, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que si toute la France avait été réunie devant l'effroi éprouvé devant la décapitation, j'étais prêt à dire que toute la France aussi communie en sens inverse pour trouver que la décapitation, c'est un peu rigolo, si vous me permettez l'expression violente que j'utilise volontairement, quand on parle de la décapitation du roi, de Marie-Antoinette ou de Robespierre.
D'accord, donc remonte à votre souvenir les milliers de guillotinés de la Révolution française.
Et surtout, oui. Cette espèce d'usage de la décapitation dans une mémoire collective où souvent dans les fêtes du 14 juillet, on va sortir la guillotine et où dans les discours politiques, on évoque la décapitation des ennemis sans aucun problème.
Ah oui, c'est quelque chose d'aseptisé. Et même, oui, on a vu certains gilets jaunes ressortir des guillotines
bien
de pacotille.
Voilà. Oui. Et pas qu'une fois, il y a eu, moi j'ai recensé, bon j'ai pas fait un travail très exhaustif, hein, mais il y a au moins 6 ou 7 occurrences de guillotines, et parfois des grandes guillotines, hein, mm-hmm. des fausses, heureusement, enfin quand même, qui ont été mises en place au moment des manifestations des gilets jaunes, évidemment destinées au président Emmanuel Macron. Alors on en pense ce qu'on en veut. La question pour moi est de dire qu'on peut pas, si on est un peuple un peu raisonnable...
Ben non, nous ne sommes pas un peuple raisonnable, vous le savez bien, Jean-Clément Martin.
Ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de peuples raisonnables. Bon,
par ailleurs,
quand
c'est
même,
vrai.
Oui. Nous sommes quand même parmi les peuples schizophrènes, mm-hmm. peut-être que tous les peuples sont schizophrènes, ça sera une autre question, mais être horrifié de la décapitation oui. de Samuel Paty et accepter que l'on puisse parler légèrement, je dirais, mm-hmm. des décapitations de la Révolution, quelles que soient les opinions qu'on en ait. Hein. Bon, moi, ça me choque.
D'accord, très bien. On voit bien.
Je me disais,
oui.
bon, il faut arriver mm-hmm. à réfléchir sérieusement sur cette question-là et à revenir sur notre mémoire.
Alors, on va essayer effectivement d'atteindre cet objectif au cours de cette conversation. Loris Chavanet, je rappelle que donc vous avez étudié plus particulièrement Danton Robespierre, mais également la terreur. Est-ce que vous sentez, vous aussi, est-ce que vous ressentez cette histoire de la Révolution comme un abcès mal cicatrisé, Loris Chavanet ?
Alors, je crois que la Révolution française doit être partagée en deux interprétations. Mmh. Il y a l'interprétation, bien sûr, historique, qui fait d'elle un événement, mmh. quel est le commencement, quelle est la fin. Moi, j'aime la thèse de la décennie révolutionnaire, parce que c'est des chiffres ronds, 89, mmh. 99.
Ça a duré 10 ans.
Mais en même temps, ouais. la Révolution française offre un répertoire plus large, puisqu'elle est aussi un avènement intellectuel, politique, philosophique, qui ne cesse d'interroger, avec moult paradoxes, la société, l'État, la combinaison des
Alors,
deux.
Alors, est-ce que parmi ces paradoxes, vous comptez celui que Jean-Clément Martin vient d'évoquer, le fait que nous parlons de la guillotine et des guillotinés avec une relative aseptisation et que nous sommes capables de nous insurger devant la décapitation de Samuel Paty ou encore les décapitations aujourd'hui pratiquées couramment en Arabie Saoudite, Loris Chavanet?
Mais sur le phénomène de décapitation, il faudrait aussi y rajouter quelque chose, c'est que j'ai entendu des plumes, des voix influentes, pour citer Patrick Buisson par exemple, qui expliquait, qui faisait un parallèle entre le fanatisme islamiste et le fanatisme jacobin. Alors, en expliquant que les deux amenaient à la décapitation. Il parlait notamment à ce sujet de la décapitation d'un prêtre qui avait fait pousser des cris d'orfraie légitimement aux citoyens amoureux de la liberté. Mmh. Et j'ai du mal à concevoir cette comparaison parce qu'elle est très insultante, à vrai dire, pour les Jacobins.
Pour les Jacobins.
Qui, eux, en ayant certes des idées politiques, un projet de régénération du corps social, de la société, de l'État, pour fonder l'homme nouveau, comme on dit, avait aussi des contraintes politiques, militaires, pour assurer l'unité de l'État. Mmh. Et donc, la violence, elle doit être prise à la fois pour son caractère, j'allais dire, non pas fantasmé, mais dans notre imaginaire, la décapitation parle énormément. Lors d'un récent salon littéraire, quelqu'un me demandait, mais pourquoi Napoléon n'est-il pas aussi considéré comme un bourreau, un dictateur, un sanguinaire ?
Certains le considèrent comme un sanguinaire.
Certains, mais il n'y a pas de décapitation en place publique. Absolument. Où les gens sont présents, place de la Révolution, appelée sous Napoléon la place de la Concorde. Oui. Mais je crois qu'il y a toujours une part d'exceptionnel dans l'imaginaire qui effraie, qui terrorise, et c'est vrai. Mais aussi, il y a ces contraintes politiques qui font que la comparaison est aussi une limite.
Comparaison n'est pas raison.
Voilà.
Jean-Clément Martin, comment vous réagissez à ce paradoxe évoqué par Loris Chavanet, qu'il n'endosse pas du reste, sur ce parallèle entre un fanatisme islamiste et un fanatisme jacobin? Est-ce que ça vous paraît parlant ou bien hors de propos, Jean-Clément Martin?
Ça me paraît, là-dessus je rejoins d'une certaine façon Loris Chavanet. Pense que la comparaison est polémique et puis est dangereuse. Je crois qu'il faut effectivement repartir à l'exactitude des faits. Mmh. Alors, une chose en deux mots, c'est que moi, pour dire les choses simplement, je ne crois absolument pas qu'il y a eu un courant qu'on puisse appeler jacobin. Tout le monde le fait, mais ça correspond, à mon avis, pas du tout à une réalité où les jacobins, entre guillemets, ont passé quand même davantage de temps à se diviser entre eux, et c'était leur lutte qui ont été essentielles, malheureusement, à l'expression de la violence.
Alors, mais si vous voulez bien, attendez juste une seconde, Jean-Clément Martin, on va peut-être remettre les pendules à l'heure pour nos auditeurs. Les jacobins, pouvaient préciser en quelques mots ce qu'on sait, ce qu'on dit de ce courant politique et ce qu'on en dit encore aujourd'hui?
Pour faire très bref,
jacobin,
on dira jacobin égale Robespierre.
Bon. Voilà.
Bon, mais en définitive, le mot jacobin qui apparaît dès le début de la Révolution rassemble, pour faire bref et très rapide, ceux qu'on va appeler les patriotes, ceux qui sont d'accord pour le début de la Révolution, et que ce groupe qui s'appelle jacobin, mais qui n'a pas de consistance au départ, c'est un club qui
informel.
Recrute. Un club organisé qui oblige pour ses membres à payer une cotisation assez élevée. Hein.
D'accord.
C'est pas du tout un club entre guillemets populaire, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Bon, c'est un club des élites, on pourrait dire ça comme ça. Bon, c'est amusant. Et ce club va se déchirer continuellement à partir de 1792. On peut dire qu'il y a un groupe qu'on a pris l'habitude d'appeler les Girondins, qui va s'opposer aux Jacobins. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans plus de détails.
Mais c'est effectivement une fracture politique que beaucoup d'hommes politiques assument aujourd'hui. Certains disent, moi je suis plutôt Jacobin, moi je suis plutôt Girondin.
Oui, les Girondins sont des gentils,
des
centralisateurs et qui n'étaient pas partisans de la violence.
Voilà.
Je dis, attendez, vous êtes bien gentils vous-même. Allez donc voir ce que les Girondins, s'ils avaient pu prendre le pouvoir, vraiment auraient voulu faire. C'était de guillotiner Marat. Ils n'étaient pas du tout partisans d'une quelconque tendresse vis-à-vis de leurs ennemis. Moi, c'est bon. Enfin, on est là-dessus. Bon.
D'accord. Donc Jacobins contre Girondins. Voilà.
Les Girondins. Et puis après, les Jacobins eux-mêmes se divisent entre eux.
Oui.
Et c'est comme ça que Robespierre se retrouve guillotiné et que ses amis devenus ses ennemis disent tous les Jacobins sont des terroristes. Bon, donc c'est une histoire très compliquée.
Oui, on comprend ça en vous écoutant,
De lutte de factions continuelle et la position, moi j'ai une double position, c'est de dire, d'une part, ce sont ces luttes entre des courants qui sont à la fois proche et opposé. On va pas rentrer dans le détail, c'est très très compliqué. Si je suis
Allez, et puis c'est à géométrie variable, oui.
Mais oui, puis oui. Si je suis un peu bête, bon, mais ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans la gauche aujourd'hui, si vous voulez. Bon.
Ben vous pouvez le dire, à tout le moins dans la gauche radicale. Je rappelle qu'il y a 3 candidats trotskistes à la présidence de la République aujourd'hui.
Oui, oui, mais dans toute cette gauche où on passe son temps à se couper en morceaux sur des points de détail et à se détester mutuellement, c'est absolument désolant.
Se couper en morceaux, dites-vous. Oui.
Oh, oui. Bien. Oui, avec ce qui se passe. Alors, bon, j'assume. Oui. Et donc, il y a ça qui fait que la violence va être libérée. Bon. Mais la deuxième chose, et moi, je voudrais insister sur l'autre chose, qui me semble plus important. La deuxième chose, c'est que quand la décapitation choque en 1791-92, c'est qu'elle choque, à mon avis, parce que l'État français, l'Assemblée législative, puis la Convention, font de cette décapitation l'instrument d'une justice rendue publique. Donc, on assume la publicité, on assume cette violence, et on veut que cette violence soit une violence qui soit humanisée. Ça, c'est choquant.
Humanisée, c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que ce soit une violence qui soit... On peut rigoler de Guillotin. Quand il dit, on sentira de l'air, un souffle d'air sur la nuque. Mais si on se souvient qu'il y a en Angleterre des innombrables moyens pour tuer des petits voleurs ou des petits criminels et qu'on les supplicie. Hein.
Bon, oui, et c'était le cas encore sous l'Ancien Régime chez nous. Oui,
oui. Et la guillotine, alors, et je pèse mes mots, la guillotine en 1791 est malheureusement un progrès dans l'humanisation des peines par rapport aux peines qu'on infligeait en Angleterre, en Allemagne, en Russie,
Très
etc.
Bien. Donc voilà un paradoxe absolument passionnant.
Alors, si vous me permettez quand même, la décapitation, c'est, on ne sait pas trop, hein, 15 000 morts.
Quand même.
Ça n'a rien à voir avec... c'est 2600 à Paris, et c'est les 15 000 morts des tribunaux. Mais ça n'a rien à voir avec les 200 000 morts de massacre. Malheureusement, la violence révolutionnaire ne s'est pas résumée à la guillotine.
Très bien, on vous a bien compris, Jean-Clément Martin. Je voudrais maintenant donner la parole à Loris Chavanette qui boue de s'exprimer. Je rappelle, vous avez publié donc une biographie croisée de Danton et de Robespierre. Cette fracture entre ceux qu'on appelle les Jacobins, ceux qu'on appelle les Girondins.
Voilà. Allez-y. Je voudrais d'abord revenir sur cette séparation, cette frontière, voire une rupture entre. Comme vous l'avez dit, Girondins et Jacobins, même s'il faudrait davantage parler de rupture entre Girondins et Montagnards, puisque ce sont plutôt les Girondins appartiennent au club des Jacobins et participent au débat. Mais sur la question du club des Jacobins comme club d'élite, je rejoins Jean-Clément Martin sur le fait qu'il y a beaucoup plus accessible, démocratique, moins cher, voire gratuit. C'est notamment le club des Cordeliers sur la rive gauche, alors que le club des Jacobins est rive droite,
de la place de l'Odéon actuelle,
près des assemblées qui se succèdent. Mais cependant, au club des Jacobins, il va y avoir une radicalité progressive, notamment aussi parce qu'il y a une ouverture de plus en plus afin d'entrer dans le club des Jacobins. Un Danton ne pouvait pas entrer au club des Jacobins si le club et ses statuts n'avaient pas été modifiés. Il faut payer moins cher. Désormais, ce n'est plus seulement un club de députés. Le club s'ouvre à la foule. Et il va y avoir en réalité au club des Jacobins une animation un peu parallèle à celle de la Convention nationale, hein, pour parler de l'époque de la République, de la Première République. Et au club des Jacobins, il va y avoir, la foule va pouvoir désormais se manifester son adhésion, et le club des Jacobins va être considéré comme un peu un État dans l'État. Un État de plus en plus radical, je pense qu'il y a une véritable, alors est-ce qu'on peut parler d'idéologie, mais il y a une pensée véritablement, une croyance même, dans la capacité du gouvernement de la Révolution à régénérer. Table rase de du passé afin de toujours avancer en conquête. C'est un idéal de progrès.
Donc
aussi,
il s'agit d'une optique profondément révolutionnaire. On fait table rase, on crée un être nouveau C'est ça, un citoyen
alors,
nouveau.
C'est un élément de la rhétorique qui progresse et qui est assez central.
Oui.
Parce que du coup, il y a une ligne directrice. C'est-à-dire que l'État donne du sens à la révolution. Parce que sinon, c'est une anarchie de discours accumulés.
Et de foule, oui.
Mais deuxièmement, le Club des Jacobins a des antennes à peu près partout en France. Il y a des centaines, voire des milliers de communes, comme l'a dit Jean-Clément Martin, où des patriotes, c'est-à-dire les défenseurs de la Révolution, s'engagent, parce que c'est quasiment criminel de rester en retrait. Et donc, un bon citoyen doit être un révolutionnaire engagé. Il doit avoir un certificat de civisme, il ne doit pas être un indifférent et rester en retrait de l'histoire qui s'écrit.
Ça, ce n'est pas terrifiant, Loris Chavanet?
Mais c'est terrifiant dans
cette obligation révolutionnaire.
Oui. C'est terrifiant pour nous qui habitons aujourd'hui une société très individualiste, très libéralisée, alors qu'à l'époque, en temps de guerre, j'ai envie de dire, comme disait Saint-Just, qui tremble est coupable. C'est-à-dire ceux qui font des révolutions à moitié construisent un tombeau. C'est-à-dire qu'il faut toujours construire une radicalité révolutionnaire
qui a
le mérite de créer de l'unité, voire même, ça c'est les Jacobins, de l'unanimité. Et c'est ça le phénomène à la fois inquiétant.
S'agit-il d'une véritable unanimité ou d'une unanimité?
Non, il y a une véritable unanimité qui se forge aux Jacobins et qui a vocation à avoir un rôle politique majeur, même au sein de l'Assemblée. Je donne peut donner des exemples, mais est particulièrement parlant à mon avis. En réalité, au cours de l'an 2, ce qu'il se produit, c'est lors d'une journée parlementaire, une adresse du Club des Jacobins qui vient demander des mesures de plus en plus radicales et volontaristes. Par la suite, comme par miracle, un membre des comités vient sur ce sujet précisément faire un rapport. Et par la suite, il est quasiment impossible aux membres de la Convention de ne pas se sentir envahi ou du moins menacé avec ces deux autorités très fortes, c'est-à-dire la base, les Jacobins, et le gouvernement, l'autorité suprême, même si elle découle de la Convention nationale. Alors, ensuite, on pourrait encore ajouter quelque chose de...
Ne compliquez pas trop, s'il vous plaît, Laurence Chavanet.
Mais sur les décapitations, ensuite, le deuxième chapitre, c'est-à-dire la violence révolutionnaire, je crois effectivement que, comme l'a dit Jean-Clément Martin, il y a des décapitations qui n'ont rien à voir avec les massacres de masse perpétrés, notamment... il n'y a pas que la guillotine, il y a aussi les noyades en Vendée, tristement réputées, à Nantes. Oui. Il y a aussi quand on assassine à la mitraille, pour nettoyer à Lyon, plaine des Brotteaux. Et puis il y a la pratique des massacres, c'est-à-dire le massacre de septembre, c'est une manière...
Dans les prisons parisiennes.
Alors c'est moins dirigé par l'État, par Danton, moi j'y crois pas à cette hypothèse, mais ça vient de la peur de l'étranger, du délitement d'avoir un ennemi intérieur.
Tout ça est sur fond de guerre, il faut le rappeler.
Tout ça est sur fond de guerre, mais je conclue juste sur la guillotine.
Allez-y.
Ce qui est tout de même symbolique avec la terreur, c'est qu'on passe véritablement à des exécutions de masse. C'est-à-dire, lors de certaines journées, 50 personnes montent à l'échafaud quasiment en même temps.
Place de la Concorde, oui.
Tant et si bien, justement, pas seulement place de la Concorde, que la guillotine se déplace à cause de l'odeur, à cause de plusieurs problèmes.
Oui,
elle se déplace et elle revient à place de la Révolution, finalement, pour l'exécution de Robespierre, que l'on jugeait vraiment, certes comme un bouc émissaire, mais le grand responsable de la terreur, et on en débattra.
Les racines du présent. RCF.
Au micro Frédéric Mounier, cette semaine nous remontons plus de deux siècles en amont. Notre question cette semaine, la Révolution est-elle terminée? Pour en débattre, deux historiens de la période de la Révolution. Jean-Clément Martin, dont le dernier livre s'intitule « La Révolution n'est pas terminée » aux éditions Passé Composé. Et puis je vous renvoie également à cet ouvrage vraiment passionnant et très très pédagogue intitulé « Infographie de la Révolution française » que Jean-Clément Martin a co-signé avec Julien Pelletier. C'est aussi aux éditions Passé Composé. Et nous avons également avec nous dans ce studio Loris Chavanet qui a publié récemment une biographie croisée de Danton et de Robespierre intitulée « Danton et Robespierre, le choc de la Révolution ». C'est aux éditions Passé Composé. Alors, nous venons de parler de cette fracture importante entre Jacobins et Girondins. Nous venons d'évoquer la violence. Je crois que le moment est venu, et je me tourne vers Jean-Clément Martin, le moment est venu d'évoquer cette question de la terreur. Pour vous, Jean-Clément Martin, votre position est très claire. Vous écrivez « Il n'y eut jamais un système de terreur, mais des violences permises par le vide d'État ». Expliquez-nous, Jean-Clément Martin.
Oui, et ça, enfin, c'est une réponse aussi que je ferai à Loris Chavanet, avec laquelle là, je suis en désaccord, parce que ce sur quoi j'insiste, et je crois, en m'appuyant sur des faits, c'est que là, il n'y a pas d'unité ni parmi les députés, ni parmi ce courant qu'on appelle les Jacobins, et qu'il y a au contraire de grandes divisions parmi les députés, mais aussi et surtout entre les députés montagnards, de la plaine, etc., avec les sans-culottes. Et ça, je crois que c'est pour moi un des éléments absolument fondamentaux.
C'est-à-dire les sans-culottes, c'est encore autre chose, hein?
C'est encore autre voilà. chose, c'est mmh. cet ensemble de militants, alors entre guillemets populaires, mais certains sont quand même très aisés, hein, oui. beaucoup d'argent, et la majorité d'entre eux ne sont pas au sens strict des ouvriers, mais souvent des boutiquiers, des petits lettrés, mmh. des médecins, des avocats.
Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les gilets jaunes ?
Là, je n'oserais pas le faire.
D'accord.
Mais parce que c'est là, on risque de faire des comparaisons vraiment dangereuses. Mmh. Mais donc, des gens qui sont pour une démocratie directe, pour faire bref.
C'est ça.
Et qui sont hostiles aux députés et qui possèdent un pouvoir dans Paris absolument considérable. Qui veulent prendre en définitive le pouvoir contre les députés, contre les Jacobins.
Contre donc, les élus du peuple, oui.
Oui, oui. Mmh. Donc, c'est là où il me semble que je ne peux pas comprendre mmh. que l'on insiste trop sur un esprit qui conditionnerait l'arrivée de la violence, alors que c'est, me semble-t-il, nécessaire de comprendre qu'on est tout le temps jouer entre des groupes rivaux
mmh. mobiles,
et de jouer,
oui.
alors, disons-le aussi clairement,
oui.
de jouer parfois d'une façon extrêmement roué pour faire tenir ensemble des groupes qui sont divergents. L'exemple pour moi très clair, c'est en septembre 1793, quand des groupes sans culottes, et même pas toute la sans culotterie,
oui.
ça aussi, ça peut paraître invraisemblable, mais c'est comme ça, il y a des extrémistes parmi les sans culottes, qui veulent qu'on mette la terreur à l'ordre du jour, personne ne sait exactement ce que ça veut dire.
Bon. Mmh.
Et là, les députés, sauf deux, refusent absolument, mais on va féliciter les sans-culottes. Bon. Et on va leur faire croire pendant deux mois qu'il va y avoir la possibilité de, en quelque sorte, d'appliquer une terreur. Personne ne la définira.
Mmh.
Et on va, en revanche, la convention Robespierre et Barrère, notamment, vont laisser faire les armées sans culottes en Vendée jusqu'en décembre 1793, leur permettre là d'avoir une politique extraordinairement violente
mmh.
jusqu'au moment où les sans culottes eux-mêmes en Vendée vont être affaiblis
mmh.
et où les députés, si je le dis là aussi d'une façon un peu brutale, sifflent la fin de la récréation, confisquent le pouvoir pour mmh. eux et rétablissent l'autorité de Paris sur l'ensemble du pays.
Très bien.
On est
alors,
dans un jeu
oui.
politique
mmh. Mmh.
et on est plus dans ce jeu politique que dans un suivi d'une idéologie précise qui n'a jamais existé.
Alors on vous a bien compris, Jean-Clément Martin. Vous nous expliquez qu'en fait la révolution s'est faite sur fond de paysages fractionnés, mobiles, avec une sorte de laisser-faire et de jeu politique permanent. C'est ce qui vous permet de dire qu'il n'y eut jamais un système de terreur, mais en fait
non.
un vide et des violences qui sont engouffrées dans ce vide. Loris Chavanet, comment voyez-vous cette question de la terreur ?
Mais écoutez, la terreur a-t-elle été mise à l'ordre du jour ou non ? Il n'y a pas de décret. Pour autant, il y a foule de discours. Et je pense notamment des discours jacobins. Jean-Clément Martin parlait de ce mouvement de début septembre 1793, c'est très important. Les sans-culottes organisés autour, on les appelle les hébertistes, mais bon, ils sont en train de se structurer un petit peu quand même, c'est la Commune de Paris pour faire court.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a beaucoup d'organisations
ouais.
quand même qui
y a
essaient de créer de l'homogénéité.
Il y a une grande multiplicité
oui.
d'acteurs. Hein.
Absolument, donc Jean-Clément Martin a raison de
oui.
c'est-à-dire de les jacobins, les sans-culottes, les hommes de la Commune, les girondins, c'est des partisans de la Révolution française,
mmh.
des chauds partisans de la Révolution française qui, pourtant, se livrent à une guerre civile-politique, si l'on peut dire. Or,
C'est là où je disjoins Jean-Clément Martin, tout en m'appuyant sur lui presque dans mes travaux, puisque Jean-Clément Martin, dans sa biographie de Robespierre, suggère la possibilité, interroge, de savoir s'il n'y a pas eu un plan concerté, en réalité, entre justement le mouvement sans culotte de Hébert et Robespierre, lorsque il y a ce mouvement populaire à l'Assemblée début septembre 1793. Il se trouve qu'à ce moment-là, Robespierre est à la fois président du Club des Jacobins, président de la Convention nationale et membre des comités. Il est la figure de proue du gouvernement, bref, autant dans les actes que dans les paroles. Et Robespierre était chargé de prononcer le discours, l'adresse des Jacobins, début septembre 1793, mais comme il est au fauteuil, il descend du fauteuil, non pas pour prononcer le discours, mais pour, à mon avis, entendre son discours prononcé par un autre. Et c'est là où, notamment, il y a cette terminologie de terreur à l'ordre du jour qui revient. Et donc, à travers cet exemple-là, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que Robespierre, je le cite lui, mais en réalité, c'est-à-dire les hommes du gouvernement, les montagnards, ont un moment partilié avec les sans-culottes, les plus exagérés des Jacobins.
Avec le parti de la violence.
Avec le parti d'une accentuation de la radicalité révolutionnaire, par exemple.
C'est joliment dit. Est-ce que c'était ça, la terreur ?
Oui, mais la terreur, c'est une violence, mais je crois que c'est aussi ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas seulement la terreur de la rue, comme si on l'appelle, c'est-à-dire les massacres de septembre, bon, ça, c'est effrayant, mais c'est aussi une terreur d'État. C'est ça, que les François Furet, Mona Ouzouf ont voulu qualifier. C'est-à-dire, c'est quand même un précédent dans l'histoire où la violence politique est portée à son niveau suprême avec une certaine opacité du pouvoir, notamment dans les grandes purges des hommes de la Révolution, voire de plus en plus des petites gens, ce qu'on a appelé la Grande Terreur. Mais bon, après, on va pas non plus mettre des T majuscules partout. Mais même si la terreur a été... Et là, je rejoins Jean-Clément Martin, un démon qu'on a diabolisé, dénoncé bien avant la Révolution. C'est-à-dire, c'est la terreur, c'est la politique des Nérons, des Tibères. Et donc, par la suite, on a voulu qualifier cette période de violence extrême du politique d'un nom. Et le nom qui a été trouvé est le nom de terreur. Alors oui, ce nom a été véritablement institutionnalisé.
C'est une construction a posteriori.
C'est une construction a posteriori de Thermidor, c'est-à-dire de Thalien, après le 9 Thermidor, de caractériser en réalité
ceux qui ont fait mourir Robespierre.
Voilà, c'est cela. Ceux qui ont fait chuter Robespierre. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est l'avantage de qualifier l'an 2, c'est-à-dire les grandes purges, de terreur. Parce que cela fait mettre des parenthèses à une période, et ce qui permet de sauver dans leur esprit la Révolution en accusant une période, un gouvernement, alors que ce sont aussi les thermidoriens qui ont gouverné, mais cela permet de laver la Révolution de ses péchés, si l'on veut dire.
Si vous voulez bien, on ne va pas rentrer dans le détail du débat historiographique, mais juste une dernière question, Jean-Clément Martin, sur ce point précis. Ensuite, on abordera un autre dossier. Pouvez-vous convenir avec Loris Chavanette que cette dénomination de terreur est une construction a posteriori, Jean-Clément Martin ?
Oui, je défends cette idée-là depuis 15 ans. Au contraire, bien sûr. Non, mais si vous voulez, le problème en deux mots quand même, c'est on est prisonnier de cette histoire-là.
Voilà.
Et on n'arrive pas à comprendre, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Loris Chavanette là-dessus. Où il a raison ? Robespierre soutient les sans-culottes, les hébertistes, on le sait, jusqu'à à peu près la mi-septembre, fin septembre 1793. Mais ce qui se passe le 5 septembre, c'est qu'il est contre la petite minorité dangereuse des sans-culottes qui s'appellent les enragés, qui ont un double défaut, c'est qu'ils veulent une république sociale et ils veulent une égalité entre les femmes et les hommes, ce que les sans-culottes ne veulent absolument pas. Et Robespierre, le 5 septembre, fait envoyer le chef des enragés en prison, où il va mourir ensuite quelques mois plus tard. C'est-à-dire que c'est non seulement entre Girondins et Jacobins, entre Montagnards et les autres, mais aussi entre hébertistes et enragés, qu'il y a toutes ces luttes Bon. Et c'est certain qu'à partir de, d'octobre 93, Robespierre abandonne les sans-culottes, ça on le voit, pour X raisons, je ne vais pas expliquer, je ne vais pas rentrer dans la psychologie de Robespierre, je n'en suis pas capable. Mais on voit bien qu'il les abandonne et qu'il va se retourner contre eux, il va les envoyer à l'échafaud après. Hein. Bon. Mmh. Donc c'est vraiment ça, et, mais moi je trouve que si on prend le mot terreur pour dire, voilà, tout ça c'est la terreur, et tout ça c'est la faute de Robespierre, alors je ne veux pas dire qu'il n'a pas de responsabilité, il en a, mais on ne comprend pas la complexité de cette chose-là, et on abandonne, je dirais, la nécessité de l'analyse politique. Moi, je suis pour qu'on analyse politiquement, vraiment, au fond des choses, parce que si on prend trop l'habitude de dire les discours égalent la politique, on ne comprendra pas le monde qui nous entoure.
Les racines du présent, RCF.
Les racines du présent aujourd'hui sur un sujet toujours sensible, la révolution est-elle terminée? Avec nous, nous avons deux historiens éminents sur la période. Jean-Clément Martin, pour son dernier livre « La révolution n'est pas terminée » aux éditions Passé Composé. Je renvoie également à son infographie de la révolution française, très visuelle, très passionnante, aux éditions Passé Composé également. Et puis dans notre studio, Loris Chavanet pour son livre « Danton et Robespierre, le choc de la révolution ». Alors, nous avons commencé à scruter avec nos deux historiens et on voit qu'ils sont parfois divers les arcanes de cette guerre civile politique, cette extraordinaire complexité avec un paysage très très mobile, très très fractionné. Je voudrais en venir à un autre épisode qui fait aussi l'objet de débats depuis plus de 200 ans, c'est évidemment la question de la guerre de Vendée, la guerre de Vendée qui a été assimilée par un certain nombre d'historiens au massacre, au génocide du XXe siècle. Jean-Clément Martin, vous avez beaucoup travaillé sur cette guerre de Vendée. Pour vous, il n'y a pas eu de destruction génocidaire en dépit du chiffre, je rappelle, environ 200 000 morts. Jean-Clément Martin.
Oui, ça c'est une position que j'ai depuis pratiquement 40 ans maintenant, qui consiste à dire qu'effectivement il y a eu au moins 200 000 morts. J'avais fourni des chiffres qui étaient peut-être plus importants que ceux qui sont actuellement retenus par les historiographies, et je vais bien me rallier à 200 000 morts. Mes chiffres étaient estimatifs, comme tous les chiffres sur cette question-là. C'est une question très très difficile à évaluer.
Quantifier.
Oui, oui. Bon, alors en revanche, si vous voulez, sur la question des génocides, je ne varierai pas de ma position, même s'il y a eu un certain nombre de débats et d'approfondissement de la question. Je n'arrive pas à trouver ni de définition précise de ce qu'on appellerait les Vendéens. Il y a bien eu une volonté répétée régulièrement d'exterminer les brigands de la Vendée. Mmh. Ça, c'est attesté, je n'en discuterai pas. C'est malheureusement ce qui a été dit et répété. Comme on disait au même moment aussi qu'il fallait exterminer les brigands de la Manche, de la Normandie, etc. Tous les brigands devaient mourir. Bon. Et puis en même temps, on protégeait, ça on l'a... Enfin, je n'invente rien. On a protégé au moins 20 ou 40 000, entre guillemets, Vendéens. Et là, le mot apparaît vraiment. Parce qu'on voulait les enlever du théâtre de la guerre et on leur a donné des moyens de subsister au moins jusqu'en 1795, comme on a aussi protégé, c'est aussi attesté début 1794, on a protégé les biens des patriotes de la Vendée. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de lecture globale des Vendéens pour vouloir exterminer une population.
Donc on ne peut pas faire la comparaison avec les génocides du XXe siècle.
Oui, ça ne semble pas...
Pour vous, ces dizaines de milliers de morts ont été le fruit, disons, d'une réaction à la contre-révolution dans ses différentes composantes, qu'elles soient religieuses...
Malheureusement, pas seulement. Malheureusement, pas seulement. La position que je défendrai, mais de plus en plus vigoureusement, je dirais, c'est que ce sont les divisions entre Girondins et Jacobins
en
mars
1793,
qui crée la guerre de Vendée. La guerre de Vendée n'existe que par la division. S'il n'y avait pas eu cette division, on n'aurait jamais pris une petite bataille le 19 mars 1793 pour la naissance d'une guerre. Donc, on crée une guerre. On laisse...
Sur quel motif, Jean-Clément Martin ?
Parce que les montagnards à Paris veulent montrer que les Girondins qui ont le pouvoir sont modérés et dangereux.
D'accord. Donc il y a une volonté de radicalité D'accord. Il y a une volonté d'expression de la radicalité.
Vous mettez des mots compliqués. On veut tout simplement tuer le rival.
On veut éradiquer. Ouais.
On veut éradiquer le rival.
D'accord.
On veut montrer que les Girondins sont faibles et on va les exécuter quelques mois plus
Donc
tard.
Donc c'est une guerre civile et pas un génocide.
Alors, c'est une guerre civile entre révolutionnaires et qui permet qu'une guerre extraordinairement mal contrôlée, dans laquelle on va laisser faire des troupes qui sont mal encadrées, et volontairement mal encadrées, si j'ose dire, jusque dans l'automne 93, font que cette guerre devient une guerre abominable. Et là, on est dans dans quelque chose qui est un abandon des règles militaires et du non, de l'irrespect de la discipline.
C'est parti en vrille, si je vous entends bien.
Oui, voilà. je n'oserais pas te dire comme ça.
Très bien.
La vrille est vraiment très brutale.
On vous a compris. Loris Chavanet, votre point de vue sur ce dossier de la Vendée. On a bien compris que pour Jean-Clément Martin, il n'y a pas de destruction génocidaire. Quel est votre regard, Loris Chavanet?
Mon premier regard, c'est que la France est composée de multiples provinces et la Vendée est une région à cette époque très conservatrice, très paysanne,
monarchiste.
C'est la monarchiste
religieuse.
Frange, mais très religieuse en tout cas. Et donc il y a le projet de régénération des Jacobins pour fonder un homme nouveau sur la base de l'égalité des lois, de l'adhésion à la République, et de même que pour envoyer les enfants des Vendéens au front. Là, d'un coup, ça pose problème.
Donc là, ça va heurter la conscience vendéenne.
Ils sont confrontés à un mur. C'est-à-dire la volonté de transformer les individus pour les faire entrer dans l'âge moderne de l'égalité se heurte à des sensibilités religieuses, locales.
Profondément enracinées.
Paysannes, beaucoup. Les paysans, pendant toute la Révolution française, vont énormément rester très conservateurs. Pas seulement en Vendée, mais ailleurs. Et donc, lorsque ces derniers prennent les armes, là, d'un coup, c'est plus la même histoire. Surtout qu'en Vendée, il y a les Anglais qui...
Le mur se hérisse.
Qui veulent intervenir, qui donnent un appui. Et donc, le projet de...
Donc la révolution devait réagir, c'est ça?
Le projet politique échoue. Du coup, il y a la répression, notamment militaire.
D'accord.
Et là, c'est là les fameuses colonnes infernales de Thurot qui pratiquent... Alors, je ne sais pas si on peut parler de génocide, mais... J'aime pas trop les comparaisons avec les concepts actuels.
La terre brûlée, en tout cas.
La terre brûlée, bon, des massacres de masse, on dirait des crimes de guerre, aujourd'hui. On dirait des crimes de guerre. Il y en a des deux côtés. Mais d'un côté, c'est une armée de paysans, de l'autre côté, c'est une armée professionnelle.
Mais mal équipée, mal commandée, peut-être,
Mais, donc, ce qu'il faut pas oublier, il est vrai, c'est que, au lieu de... En Vendée, on est dans une logique d'extermination. C'est-à-dire, le seul moyen, puisqu'on ne peut pas convaincre ces gens de devenir de bons républicains, de bons citoyens vertueux, on va tenter de les exterminer. Alors, non pas toute la population, mais Babeuf lui-même parlait de populicide en 1780, en 1795.
Voilà,
c'est-à-dire qu'on rentre dans quelque chose qui est du domaine du rasage, tout de même. Mais
une autre table rase.
Une autre, c'est un jeu de mots, mais par exemple, les agissements de Carrier à Nantes.
Qui a noyé des centaines de personnes.
On rentre dans quelque chose de différent. Alors, je parlerai pas de oui, il y a une terreur à l'Ouest à ce moment-là, avec un peu la même logique qu'à Paris, c'est-à-dire que si l'on noie autant de monde nuitamment lors de fêtes, etc., les mariages républicains, il y a de la légende, il y a de la vérité, c'est notamment pour vider les prisons. Mais pourquoi on a besoin de vider les prisons? Mais parce qu'on fait rentrer de plus en plus de monde en prison et qu'on veut de moins en moins les juger et qu'on rentre dans une logique d'extermination, comme on disait. Et en vérité, l'approche tout aussi essentielle sur la Vendée, c'est ce qui se passe après Thermidor quand on crée une amnistie et on en cherche le compromis. Mais en réalité, ni l'extermination, ni le compromis ne fonctionnent et ce sera quasiment Napoléon qui réussira à mettre un terme à la guerre civile.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
La révolution est-elle terminée? C'est le thème de notre conversation aujourd'hui avec deux éminents historiens de la révolution, Jean-Clément Martin, qui publie un condensé de ses différentes interventions depuis bientôt 30 ans. La révolution n'est pas terminée, tel le titre de ce livre aux éditions Passé Composé, ainsi que, je le rappelle, une passionnante infographie de la révolution française que Jean-Clément Martin co-signe avec Julien Pelletier, toujours aux éditions Passé Composé. Et puis Loris Chavanet, qui lui a travaillé sur Danton et Robespierre. Son livre est intitulé Danton et Robespierre, le choc de la révolution, aux éditions Passé Composé. Alors on a vu tout à l'heure plusieurs questions. On a vu la question de la terreur, on voit les divergences d'interprétation entre les historiens sur la question de la terreur. On a vu la question de la qualification de ce qui s'est passé en Vendée. S'agissait-il d'un génocide, d'une extermination? Je reviens avec vous, messieurs, sur la question de l'apport historique de la Révolution française. Un certain nombre de vos collègues historiens nous expliquent encore que la Révolution a été le prototype des révolutions, de la Révolution soviétique, de la Révolution chinoise, voire de la Révolution cambodgienne, enfin d'un certain nombre de phénomènes révolutionnaires qui sont produits. Je sais qu'il n'y a pas unanimité dans la communauté des historiens là-dessus. Je sais que notamment pour vous, Jean-Clément Martin, Lénine ne s'est pas inspiré de la Révolution française. Alors, jusqu'où peut-on pousser cette comparaison ou cette non-comparaison, Jean-Clément Martin?
Oui, alors, si vous me permettez, malgré tout, j'aimerais revenir un tout petit peu sur ce que vient de dire M. Chavanet, parce que ce sera bref, parce que ça m'ennuie de dire qu'on puisse invoquer François-Noël Babeuf avant qu'il s'appelle Gracchus, pour dire que Babeuf parlait de populicide pour qualifier ce qui s'est passé en Vendée. On sait, et là-dessus les faits sont absolument établis, que Babeuf écrit cette dénonciation du populicide pour cacher les massacres que Fouché a commis et laissé commettre à Lyon, et qu'il y a là une manœuvre politicienne qui est absolument invraisemblable. Alors,
jeu politique.
Oui, on est toujours là-dessus. Donc, pour moi, il est absolument nécessaire de revenir sur ces questions-là dans le détail et de bien comprendre que nous ne devons pas être aveuglés par cet ensemble de choses. Parce que, bon, moi, ma position, et ça pourra peut-être être un peu paradoxale, mais alors, si l'on parle de population paysanne hostile à la Révolution, c'est la moitié de la France qui est hostile à la Révolution. C'est en 1795...
Oui, je vois Loris Chavanet qui acquiesce.
Oui, bien sûr. Et, voilà. Et donc, là, pourquoi est-ce que la moitié de la France qui est hostile à la Révolution en 1795 et en 1797, qui s'est opposée même militairement à la Révolution, quand je passe aux Pays-Bas...
Oui, c'est intéressant.
C'est fondamental à comprendre. Arrêtons de penser que la Révolution a conquis tout le monde. Et en même temps, il y a eu 600 000 hommes envoyés aux frontières. Ça veut dire qu'une majorité essentielle de la population a accepté d'aller défendre le pays.
Sur ce point précis, oui.
Oui,
c'est ça.
Et pendant plusieurs années. C'est-à-dire que si on divise trop les choses en disant il y a les opposants, etc. Et puis, si on veut résumer l'opposition à la Révolution avec la Vendée, ben, faut comprendre pourquoi il n'y a eu que la guerre en Vendée, alors qu'il aurait dû y avoir la guerre en Bretagne, et la chouannerie, ça a duré plus de 10 ans.
Alors,
donc, méfions-nous des choses trop rapides.
On vous a bien compris, Jean-Claude Martin. Voilà.
Sur Lénine.
L'écho de la Révolution, l'écho historique.
Bon, moi, je pense qu'il faut partir un petit peu aussi à l'envers.
Allez-y.
Si la Révolution est aussi importante dans l'ensemble de l'histoire du monde, c'est qu'elle est le moment au XVIIIe siècle où tout cet grand essor de révolution qui a touché les États-Unis, l'Irlande, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, etc., se résume en France ou est illustré par la France avec des événements aussi étonnants que l'exécution du roi, et puis que la guerre gagnée par les révolutionnaires français contre tous les Européens, et les conquêtes napoléoniennes sur l'ensemble de l'Europe qui imposent des principes révolutionnaires, la laïcisation, l'administration. Napoléon est, de ce point de vue-là, celui qui transmet les valeurs essentielles de centralisation.
D'accord. Donc cet écho-là a été fort.
Mais fondamental.
Cet écho-là est-il allé bien au-delà est-il allé jusqu'à être l'origine des révolutions, des grandes révolutions que on a connues au XXe siècle?
Tous les courants révolutionnaires vont s'en inspirer, souvent en s'en distanciant, souvent en disant qu'ils ne voulaient pas le faire. Mais tous les mouvements, la charbonnerie par exemple, qui va toucher toute l'Europe, et puis ensuite tous les échos en Russie, les décabristes qui vont s'inspirer de la Révolution française, et puis...
D'accord. Donc il y a eu vraiment un phénomène matriciel.
La Révolution.
Oui.
Mais l'écho de la Révolution française a été infiniment plus important que toutes les autres révolutions, en bien comme en mal.
D'accord. Bon. On arrive malheureusement bientôt au terme de cette passionnante conversation. Je demande à Loris Chavanet son point de vue sur cette Révolution française comme prototype des révolutions du XXe siècle.
En réalité, lorsque le marquis de La Rochefoucauld est allé voir Louis XVI et qu'il lui dit... Lorsque Louis XVI lui dit « c'est une révolte que la prise de la Bastille » et qu'il lui répond « non, sire, c'est une révolution », il faudrait compléter « ce n'est pas une réforme de l'État, c'est une révolution ». C'est-à-dire ça va amener un changement de régime politique. C'est quand même ça une révolution. À la française, c'est un changement de régime. On bascule d'une monarchie absolue à une monarchie parlementaire, puis une république, et ainsi de suite. Mais de même qu'un changement de régime, la révolution a ceci de véritablement particulier, qui la distingue aussi de la révolution américaine, c'est qu'il s'agit aussi d'un changement d'époque.
C'est
fondamental,
oui.
C'est une 89, même si des amis médiévistes n'apprécient pas cette rupture, reste une rupture absolument envoûtante dans l'histoire de France.
Est-ce qu'elle a envoûté Lénine?
Alors avec une postérité forte, bah oui, Lénine, bon, lui il cite notamment Gracchus Babeuf qu'on citait tout à l'heure quand il disait que faire dans un de ses ouvrages, mais je crois que c'est surtout il y a un emprunt à partir de 1917 au fantasme d'une révolution, c'est-à-dire à la capacité des masses, mais en réalité c'est de ceux qui gouvernent les masses, du parti, à transformer le réel. Et c'est cette idée-là, c'est-à-dire
fondamentalement
en profondeur, c'est-à-dire c'est un déterminisme historique qui fait que l'histoire peut être inversée si il y a une volonté individuelle forte. Et à ce moment-là, bon, Marx avait expliqué que l'histoire, c'était la lutte des classes, c'était l'émancipation des classes ouvrières contre les propriétaires. Ce qui, en réalité, sépare la thèse marxiste et bolchevique de la Révolution française, qui était, quant à elle, notamment bourgeoise. Et donc, il y a une critique de la Révolution française comme une révolution bourgeoise. Donc oui, il y a inspiration, mais en même temps, c'est plus une récupération du mythe qu'une véritable réflexion sur la postérité de l'égalité. Par contre, autre point de vue, ce qui est le plus fondamental aussi, c'est la guerre des idées. Or, quand on étudie un peu l'histoire de la philosophie ou de la littérature au XXe siècle, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que Arthur Koestler, Hannah Arendt, François Furet, mais aussi Albert Camus, font un parallèle entre ce que Camus appelle le nihilisme révolutionnaire d'un Saint-Just, et ensuite les formes de nihilisme totalitaire, même si c'est excessif, du XXe siècle. Et
je crois que excessif. Il y a eu
je crois que le parallèle intellectuel doit rester quelque chose d'ouvert, parce que la philosophie est un champ ouvert.
Alors une toute dernière question à laquelle je vous demanderai l'un et l'autre de répondre brièvement, Jean-Clément Martin, c'est une question que nos auditeurs se posent forcément en vous écoutant. Jusqu'à quel point la violence est-elle indispensable à la réforme en France ? Jusqu'à quel point la violence est-elle constitutive de tout processus, disons, révolutionnaire ? Et puis, pourquoi pas, tentons une uchronie, la révolution aurait-elle pu accoucher d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise? Jean-Clément Martin, est-ce qu'on aurait pu se passer de la violence?
Écoutez, je pense que l'histoire ne se fait jamais sans l'expression de violence, et que le moment de la Révolution a été un moment où on a voulu théoriser cette violence. Et qu'une fois que l'exemple de la Révolution a débouché sur les événements historiques dont on vient de parler, nous avons tous préféré dissocier la violence inhérente à toute vie politique en disant qu'il n'y avait que la Révolution qui était liée à la violence. Je ne connais pas de régime politique sans qui, quel qu'il soit.
Oui, jusqu'à aujourd'hui.
Bien sûr.
Oui, c'est ça. La violence fait partie de...
Mais vous savez, oui.
Voilà. On n'accouche pas sans violence, en quelque sorte.
Mais on ne règne pas, on ne gouverne pas sans violence. Que ce soit une violence immédiate ou que ce soit une violence plus subtile, économique, sociale. Oui. Toute la question, c'est de savoir si on assume ou pas cette violence et si on en discute politiquement. Et je crois que c'est ça la question.
Et de voir comment on peut la réguler également. Loris Chavanette, votre dernier mot sur la violence ?
Non, je rejoins cette idée-là, même si le 89, qui a connu les premières vagues de violence, les premières exécutions, défendues d'ailleurs par Mirabeau, par l'Assemblée, qui a déjà amené une sorte d'amnistie quand on a commencé à pendre aux lanternes tel ou tel Berthier ou Foulon, en juillet 89. Donc la violence
est
consubstantielle à la Révolution française.
Commencé par le gouverneur de la Bastille. Qui a fini
voilà,
décapité.
Et donc la Bastille est un acte de violence, ce qu'on appelle légitime, parce que en France, le droit à l'insurrection est un droit de résistance à l'oppression. Et donc, il y a un moment où la violence devient
au prix de la violence, voilà.
légitime pour faire la révolution et deuxièmement, ensuite, pour la conserver, c'est-à-dire lutter contre les ennemis de la révolution, car il y en a à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais là, comme je citais tout à l'heure Hannah Arendt, je vais la reciter, puisque au début de son livre sur la révolution, où elle compare la révolution française et la révolution américaine, où c'est très différent, une guerre d'indépendance violente et une guerre civile violente.
Oui.
Mais elle écrit au début de son magnifique livre, « Au commencement était le crime ». Donc autant dire que la violence est consubstantielle même à l'humanité qui est l'état de droit et notre époque de modernité, j'ai envie de dire non violente, même s'il y a du mépris, de la violence symbolique, fiscale par exemple, un despotisme fiscal tel qu'il était conçu en 89 peut être ressenti par certains aujourd'hui, d'où le parallèle possible avec la crise des gilets jaunes sur l'insatisfaction fiscale. Mais je crois que la violence est aujourd'hui de plus en plus contenue tout de même. Et la Révolution française n'est pas terminée dans notre imaginaire. Mais c'est vrai que du point de vue de la violence d'État, on en est très loin.
Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous nous offusquons quand nous voyons exploser la violence sur nos écrans de télévision. Peut-être que nous avons été moins habitués que les générations précédentes à cette violence inhérente à tout processus politique, dit Jean-Clément Martin, ou révolutionnaire, dit Loris Chavanette. Un grand merci à nos deux invités qui ont contribué à éclairer nos mémoires sur cette question de la révolution. Notre thème aujourd'hui, c'était donc « La révolution est-elle terminée ?» On comprend en vous écoutant l'un et l'autre qu'elle n'est pas tout à fait terminée et qu'il y a certaines fractures qui continuent à nous traverser. Alors je rappelle les titres des livres de nos invités. Loris Chavanette, Danton et Robespierre, Le choc de la révolution. Je rappelle également que vous avez publié il y a déjà quelque temps 95, La terreur en procès aux éditions du CNRS. Et puis Jean-Clément Martin, La révolution n'est pas terminée aux éditions Passé Composé. Je rappelle également la biographie de Robespierre signée par Jean-Clément Martin. Et puis aussi une infographie, comme je disais tout à l'heure, de la révolution française aux éditions Passé Composé. Une infographie très visuelle, très pédagogue, très didactique, qui nous permet de beaucoup mieux comprendre ce que nous avons évoqué tout au long de cette conversation. Donc un grand merci à vous deux. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Et vous pouvez aussi, à partir du site du RCF ou bien de votre plateforme favorite de podcast, nous réécouter en balado-diffusion quand vous voulez, où vous voulez. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.